Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier De Scutter co-anime toujours cet épisode avec moi. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et nous avons toujours à nos côtés notre invité Juliana Antero. Salut Juliana.
Bonjour Hermano, bonjour Olivier.
Tu nous as offert une présentation de toi hier. On a parlé INSERM, recherche, on a parlé de femmes dans le sport. Justement aujourd'hui j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur la place qui est laissée aux femmes dans le sport. On parlera un peu justement après du projet Empower, mais déjà, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la place des femmes dans le sport, la place qui est laissée aux femmes dans le sport et peut-être une brève historique des femmes dans le sport?
Oui, avec plaisir. Nous, à l'IRMES et aussi au CEP, les deux laboratoires de l'INSEP, nous avions fait une étude avant ces derniers Jeux Olympiques et nous avions montré que parmi les pays les plus primés aux Jeux Olympiques, la France était le seul pays où il y avait un déséquilibre, une disparité entre le nombre des médaillés femmes et hommes. La France présentait 70% des médailles masculines contre seulement 30% des médailles féminines. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, pour ces derniers Jeux, on trouve environ 50% des médailles féminines et 50% des médailles masculines. Ce qui pourrait être aussi en raison, il y a plus de parité maintenant en nombre d'épreuves féminines et masculines dans les Jeux Olympiques.
Même en termes de représentation, il me semble que, en tout cas pour la France, cette année, on était quasiment à 50-50 entre hommes et femmes, non?
Oui, tout à fait. Mais c'était déjà le cas des dernières 3 éditions. Et pour autant, il y avait tout de même moins de médailles du côté féminin. Mais cela semble aller dans la bonne direction puisqu'on commence à trouver un équilibre des médailles.
Ça va dans la bonne direction pour la France, mais donc du coup, potentiellement, ça veut dire qu'il y a d'autres pays où on va voir le phénomène inverse.
Peut-être, mais c'est que c'est plus normal, on va dire, de s'y retrouver. C'est qu'un pays, s'il est bon dans un sport, il est bon du côté féminin et masculin parce qu'il a une tradition, parce qu'il a des bonnes conditions d'entraînement. Donc, les plus normal, c'est de retrouver des pays qui vont avoir des médailles dans les côtés féminins et masculins. Et c'est, par exemple, les cas des États-Unis, de l'Angleterre, ou voir la Chine qui a un peu plus de médailles du côté féminin que du côté masculin.
Après, on parle des grandes nations du sport aussi, qui sont, entre guillemets, des fabriques à champions. Bon, pour la Chine, on se pose toujours un petit peu la question de comment est-ce qu'ils fabriquent ces champions. Mais en tout cas, on l'a bien vu sur ces derniers JO. Pour la France, pour reprendre l'exemple de la France, au niveau du handball, au niveau du basket, aussi bien les équipes masculines que féminines font des belles performances.
Oui, bien que le volley qui a fait sa médaille des champions olympiques, il n'avait pas les femmes qui n'étaient pas qualifiées. Et c'est là pour avoir plusieurs explications, mais c'est que c'est plus intéressant pour les pays, c'est que ce soit équilibré, c'est-à-dire les deux catégories, féminine et masculine, plus se qualifier et montrer des performances équivalente.
Et c'est dû à quoi alors pour toi ce phénomène où on voit de plus d'équité entre les médailles hommes et femmes?
Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs raisons à évoquer. Il y en a des explications sociologiques, il y a une partie d'investissement aussi. Parce que s'il y a plus d'investissement du côté masculin, c'est plus difficile de voir apparaître des médailles du côté féminin. Mais il y en a plusieurs explications et je pense que cela dépend intrinsèquement de chaque fédération sportive et leur politique à mettre en place. Il peut avoir aussi même des questions culturelles. Est-ce que les femmes en France s'engagent au même titre que les hommes pour faire du sport à haut niveau ou elles ont les mêmes opportunités, je ne sais pas, et ça dépasse mon domaine d'expertise. Moi, j'ai fait juste les constats en termes des chiffres et des nombres, et là, ça semblerait être l'une des premières Olympiades plus récentes. où on commence à aller vers cet équilibre des médailles entre hommes et femmes.
Et alors, dans cet exemple-ci, c'est intéressant parce que tu prends comme critère le nombre de médailles, mais finalement, on peut très bien se dire, bah, en fait, il peut y avoir autant de médailles hommes-femmes, ça veut pas forcément dire qu'il y a autant de sportifs au niveau hommes que femmes, tu vois, enfin, dans la totalité, je veux dire, dans la population.
Oui, tout à fait. Après, dans l'étude que nous avons réalisée ici à l'INSEP, nous avons pris en compte le nombre des participants qualifiés au jeu. On ne peut pas savoir toutes les personnes qui pratiquent les sports et qui ne sont pas qualifiées, mais parmi ceux qui étaient qualifiés, et les dernières Olympiades, on avait un peu plus de médailles du côté masculin que féminin. Donc ça montrait bien qu'on avait encore un bon vivier à exploiter pour des potentielles médailles. Et là, à Tokyo, on a vu apparaître des bonnes surprises et des belles médailles.
On parle justement de la différence entre le sport masculin et le sport féminin. C'est 20-30 dernières années, le sport a énormément progressé. On voit notamment au niveau des records qui sont battus quasiment à chaque grand rendez-vous, que ce soit européen, mondial ou olympique. Cette année, on a eu quand même quelques records. On voit aussi, et notamment dans le triathlon, que l'écart tend à se réduire entre les performances masculines et les performances féminines. Je dis bien, il tend à se réduire. Je dis pas que les femmes rattrapent, entre guillemets, le niveau de performance des hommes. Est-ce que tu penses que ça peut être dû à un aspect scientifique, purement scientifique? Est-ce que on appréhende mieux les spécificités des femmes? Est-ce que la qualité de l'entraînement, de manière générale, évolue? Ou est-ce que c'est purement dû au hasard ou au nombre de pratiquants qui augmente?
Je pense que c'est l'explication est multifactorielle. Il y a un côté plus il y en a des femmes qui vont pratiquer le sport et plus il y en a un investissement, plus il y en a une prise en charge adaptée, plus tout cela va permettre à tous ces groupes des femmes sportives d'améliorer leur niveau de performance. Après, il y en a aussi une évolution aussi du nombre des participantes parce que ça augmente partout dans le monde, la pratique du sport féminin, et aussi si ça augmente l'investissement, ça augmente aussi, ça permet à toutes ces sportives d'atteindre leur meilleur potentiel, la meilleure capacité qu'elles peuvent s'exprimer au mieux. Après, nous avons réalisé des études aussi ici au centre de l'IRMES et nous avons montré que parmi des sports chronométrables, c'est le cas de l'athlétisme, les gaps entre la performance masculine et féminine se stagnent. C'est-à-dire, il semblerait qu'on a atteint quand même des deux côtés, du côté masculin comme du féminin, on s'approche vraiment vers notre limite biologique, physiologique, vers les plus grandes performances. Et ces gaps, ça varie selon les disciplines, mais en moyenne, c'est un écart de 10% des performances.
Pour reprendre l'exemple du triathlon, il y a ce nouveau challenge qui devrait voir le jour en 2022, le sub-7 ou sub-8 sur la distance Ironman. On voit que le gap qu'il y a entre les hommes et les femmes, il est d'une heure. Donc, on est à un septième.
On est à 14% au lieu de 10, quoi.
Voilà, on est un peu plus haut que 10%.
Oui, ça varie selon les disciplines. Il y a des disciplines qui sont de l'ordre des 7-8%, d'autres il y a un peu plus. La moyenne, c'est à 10%. Et il y a une explication physiologique pour cela.
Il y a aussi une explication de temps, non, je pense, parce que finalement, un effort qui est peut-être un petit peu plus explosif, la différence se sentira peut-être moins que sur du long. Ou bien au final c'est proportionnel et ça reste la même chose. Est-ce qu'il y a plus d'écart? En fait, ma question c'est est-ce qu'il y a plus d'écart de manière proportionnelle sur des, je sais pas, sur du marathon par exemple ou du triathlon longue distance que sur d'autres disciplines plus courtes?
Nous nous sommes posés aussi cette question pour savoir si c'était l'écart qui s'exprimait de façon plus importante parmi les filières aérobies. Ou plutôt celle anaérobie. Et nous avons trouvé que c'était l'écart qui diminue vers des sports d'endurance. Plus on va vers la haute endurance, plus cet écart entre la performance, et quand je dis cet écart, c'est entre les records masculins et les records féminins, il a une tendance à diminuer. Après, selon les disciplines, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. C'est le nombre de pratiquants aussi, parce que plus le nombre de pratiquants est important, plus on a la probabilité de trouver
une meilleure représentativité.
De trouver une génie du sport, de trouver des personnes qui sont vraiment atypiques, on appelle des outliers, qui sont ceux qui vont faire des performances extraordinaires. Plus il y en a des pratiquants, plus on augmente cette probabilité. Donc, si on va vers des épreuves où il n'y en a pas beaucoup de pratiquants, c'est un peu plus rare de trouver ces performances extraordinaires. Et donc, l'écart, il peut être plus important. Mais la tendance va dans la direction de l'endurance. Dans l'endurance, les femmes tendraient à avoir un écart moins important avec les hommes.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi... D'autant plus sur l'ultra-endurance. Je pense notamment à la fameuse transcontinentale à vélo qui fait à peu près 4000 km qui traverse l'Europe. C'était l'édition d'il y a 2 ans, je pense, où c'est une femme qui l'avait gagnée. On s'y attendait pas forcément, mais effectivement, et elle a vraiment explosé pour le coup les records en roulant 400 km par jour, presque. Je crois qu'elle a terminé l'épreuve en 11 jours, donc c'était vraiment une performance assez incroyable. Et en fait, c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus, en tout cas dans le domaine de l'ultra. Donc ça rejoint ce que tu dis. Et finalement, il y a aussi un autre aspect, je pense, qui est fondamental, c'est qu'on n'est plus juste sur une performance physique. Le mental intervient énormément. Je veux dire, le mental prend une place beaucoup plus importante quand on rallonge les distances.
C'est l'une des hypothèses évoquées aussi. Il y a aussi, physiologiquement, ce sont des hypothèses. On n'a pas encore une bonne explication pour cela, mais c'est aussi la fatigabilité qui serait... les femmes auraient une fatigabilité moins importante, donc elle leur permettant, du moment qu'elles sont endurantes et qu'elles s'entraînent, de garder cette capacité à répéter les mouvements. Donc c'est le cas des mouvements de l'ultra-endurance, avec une neurofatigabilité plus petite vis-à-vis des hommes, et c'est là que peut-être qu'elles vont gagner un peu plus des performances.
C'est la première fois que j'entends ce mot-là, moi, la fatigabilité. Je le connaissais pas.
Ah, mais c'est peut-être pas.
Ça existe.
Ah, d'accord. Parce que là, j'ai eu un doute, parce qu'en anglais, un neurofatigability. C'est pour ça.
Non, ça doit très probablement exister. C'est juste que c'est peut-être un mot un peu technique. Enfin, je comprends l'idée, hein, mais.
je regarde.
Mais donc la fatigabilité, c'est la propension à se fatiguer rapidement ou non.
Tout à fait. Et je regarde en anglais un petit peu.
Non, mais je remets pas du tout en cause.
Ah, mais moi j'aimais parce que parfois je fais ça et j'invente des mots. Hein, c'est...
On a parlé des hommes, on a parlé des femmes, on a parlé de la représentation de chaque sexe dans le sport. Je vous propose que demain on revienne directement sur le projet sur lequel tu fais des recherches au sein de l'INSEP, c'est-à-dire le projet Empower.
Parfait.
À demain.
À demain.
À demain.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.